With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le crunch, rien que le nom donne envie. France-Angleterre, c'est les Frogs contre les Roast Beef, c'est une rivalité légendaire. C'est simple, chaque année quand tombe le calendrier du tournoi Destination, c'est la première date que l'on regarde, en tout cas c'est la première date que je regarde. Des affrontements entre ces deux nations, il y en a eu, oui, mais quel est le plus beau, celui qui vous a procuré le plus d'émotion, que ce soit devant votre écran ou sur la pelouse? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort, et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand crunch de l'histoire. Pour m'accompagner, ça tombe bien, puisqu'ils en ont joué, les France-Angleterre, nos deux consultants Jean-Baptiste Lafont et Christian Califano, ainsi que le journaliste Laurent Vergne d'Eurosport. Salut messieurs.
Salut.
Salut Adrien.
Moi, j'en ai pas joué.
Tu précises. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vous en avez l'habitude maintenant, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors pour commencer, messieurs, quel crunch avez-vous choisi de défendre? Donnez-moi juste l'année. Cali.
Allez, moi pour moi, 97.
Laurent.
Moi, ce sera surtout 77.
JB.
Tu aimes bien que j'ai l'esprit de contradiction, mais j'ai pas de choix spécial parce que j'ai pas envie de parler d'un crunch où j'ai joué. D'abord, je voudrais qu'on s'interroge sur le mot crunch, d'où il vient, quand il est apparu. Hein, et puis voilà, à la limite, au niveau des crunchs que j'ai plus perdu que gagné, j'aime mieux parler des autres, en fait, de ceux que j'ai regardés. Où j'ai admiré, par exemple, Christian Califano, Thomas Castagnel, enfin, toi, toute cette génération du début des années 2000, fin 90, où effectivement, il y a eu quand même des bonnes campagnes à Twickenham. D'ailleurs, crunch, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est à Londres? Je ne sais pas. C'est quoi?
C'est les deux. C'est quand la France joue l'Angleterre.
Et ça vient d'où, alors? Donc, ça vient d'une tablette de chocolat. Donc, très
ouais, comme j'écris un article là sur la rivalité France-Angleterre, j'ai fait quelques recherches. Les premières fois où on le voit dans la presse anglaise, c'est au début des années 80, en 81, je crois. Ned Grand Chelem aussi pour les Bleus. Et en tout cas, cette année-là, la presse anglaise parle de crunch. Mais c'est sûr que ce n'était pas encore un terme qui était utilisé massivement dans la presse française. Personne ne parlait de crunch. Mais du côté anglais, on commençait en tout cas à cette époque-là. Avant, je ne sais pas, mais à cette époque-là, on en parlait déjà un petit peu.
C'est énorme parce que le mot crunch, ça te fait penser à, déjà tu sais, à l'intonation, à l'ambiance qu'il y avait pendant les matchs et tu sais, la préparation. Tu sais, Jean-Bas, c'est toujours pareil. Hein. Ces matchs-là, tu ne les préparais pas juste une heure avant. C'était toute la semaine, c'était une rivalité incroyable. Et puis surtout, comme on dit, les 20 premières minutes, elles étaient plus qu'engagées à cette époque. Hein. Tu t'en souviens ou pas, Jean-Bas?
Oui, bien sûr, je m'en souviens. Je ne suis pas encore Alzheimer, Christian, je te remercie. Bien sûr que je m'en souviens, mais je m'arrête au mot crunch parce que tu le prononces comment, toi? Crunch. Non, mais moi, je pense réellement, pour parler un petit peu sérieusement, mais un petit peu seulement, que le mot crunch est apparu vraiment. Il y a une date importante pour moi, pour le mot crunch, c'est le Angleterre-France en 89. Je joue, on perd peu, mais on s'est balayé devant. Et c'est le début de la reconquête un peu du rugby en Angleterre, avec les chocs annuels entre la France et l'Angleterre. Mais le crunch, ça veut dire pour, Pour nous, est-ce que pour nous, je pose la question, pour l'équipe de France, c'est le match le plus important du tournoi? Parce que normalement, ça devrait être ça. Moi, je ne le pense pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que tu en penses, Christian? Est-ce que c'était le match le plus important pour toi, à ton époque, de jouer contre l'Angleterre plutôt que l'Irlande, les Gallois ou les Écossais?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une telle rivalité, et surtout quand tu arrives en équipe de France, c'était le seul match dont on veut parler quand tu faisais le tournoi à l'époque des Six Nations. Ouais. Tu vois, même pareil, quand ça a été le tournoi des Six Nations, c'était le match référent, c'était le match auquel voilà, tu devais vraiment montrer tout ton potentiel et produire le meilleur de toi-même. Parce qu'en fait, cette rivalité, elle a duré jusqu'à, je pense, jusqu'à 99. 95, je dis des bêtises, 95, parce que jusqu'à cette époque-là, c'était très, très, très compliqué. On se rappelait des matchs qu'il y avait auparavant et les quelques exploits qu'avait pu réaliser l'équipe de France. Mais je crois qu'à partir de 95, après la Coupe du Monde et notamment cette troisième place, il y a beaucoup de choses qui se sont un peu passées, qui ont aussi changé un peu la physionomie et les choses. Après,
ouais, Christian, c'était quand la France gagne le match pour la troisième place en Afrique du Sud, les Anglais restaient sur 8 victoires de suite.
Ouais, c'est bien, je rappelle.
Depuis 89, d'ailleurs, je crois. Donc, c'est vrai que c'est la fin d'une période un peu noire pour moi.
Ouais, un peu noire. Et puis surtout, c'était. Tu sais, le souvenir que j'ai, alors sans faire de parallèle avec la Coupe du Monde 95, c'était. Mais tu vois, avec tous les anciens qui faisaient partie de ce groupe, comme Philippe Sella, comme bien d'autres, Philippe Saint-André, je ne vais pas tous les citer, mais c'était le match qui était le plus important pour eux. Et comme tu dis, ça reprenait un peu cette période néfaste un peu du tournoi des Six Nations où tu arrivais pratiquement rarement même à gagner contre l'équipe d'Angleterre.
Ce qui est sûr, c'est que je pense que la rivalité France-Angleterre, pour moi, en tout cas avec mon regard extérieur, elle a vraiment pris de l'ampleur. Sportivement, vous le direz mieux que moi, mais en tout cas médiatiquement, en termes d'impact médiatique, à la fin des années 80, début des années 90, quand les Anglais redeviennent vraiment une très, très grosse équipe. Et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, quand j'étais quelques années avant, quand j'étais gamin, sincèrement, qu'on joue l'Irlande ou le Pays de Galles ou l'Écosse ou l'Angleterre, en termes d'intérêt, d'attente, pour le jeune spectateur que j'étais, ça ne changeait strictement rien. Et c'est vrai que c'est né au début des années 90 avec cette très grosse équipe anglaise. Pour moi, il y a le vrai tournant, je pense quand même que ça reste le match de Coupe du Monde, le quart de finale de 91, parce que, en plus du tournoi, maintenant il y avait la Coupe du Monde, les deux équipes ne s'étaient pas affrontées en 87, et puis les Anglais étaient vraiment à la ramasse à l'époque. Mais je pense que ce quart de finale au Parc, JB, tu t'en souviens sûrement beaucoup mieux que moi, où tu marques un essai, même si ça n'a pas suffi, je pense qu'il marque vraiment une rupture dans la relation entre les deux équipes à cette époque-là.
Mais déjà, quand même, en 89, j'insiste, en 89, au moment des hymnes, c'était très violent à Londres. Franchement, je te dis, après, effectivement, ça s'est prolongé, mais en 91, en fait, les années de Coupe du Monde, il y a deux crunchs. Est-ce que vraiment le crunch, c'est plutôt apparenté au tournoi des 5 nations ou 10 nations?
Maintenant, on en parle.
Un match de Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est un crunch.
En tout cas, je sais qu'en 2011, par exemple, quand il y a eu le match France-Angleterre lors de la Coupe du Monde,
c'était un crunch.
Oui, quand je dis « on », tout le monde, les médias, on a parlé de crunch. Maintenant, je pense qu'à tort ou à raison, c'est devenu un terme utilisé à tort et à travers. Mais c'est marrant ce que tu disais, parce que j'ai lu un article de Brian Moore d'il y a quelques années où il revenait sur ses souvenirs de France-Angleterre. Et lui, ce qu'il disait, pour moi, crunch, c'est un truc marketing. Lui, il appelait ça « la guerre ». Et en français dans le texte, c'est-à-dire qu'il ne disait pas « the war », pour lui, c'était « la guerre hein, » quand il jouait à l'équipe de France. Donc, il dit « moi, je n'ai jamais parlé de crunch » et il n'est pas plus fan que ça de cette appellation. Donc, je pense que voilà, le crunch, c'est un terme comme on a eu besoin, à mon avis, de façon complètement artificielle, de parler de classique, voire de classico pour les PSG-OM. Ouais.
Donc, c'est la même période, d'ailleurs.
Exactement, non. C'est né à peu près à la même période. Donc, pour moi, c'est vraiment une histoire médiatique, cette histoire de crunch et de marketing. Et pour, honnêtement, ça ne m'intéresse pas.
Toi, Jean-Baptiste, tu l'associes vraiment à Twickenham ou au Parc des Princes, puis au Stade de France. Enfin, c'est l'endroit aussi qui joue.
Non, je l'associe plus à Twickenham, mais en fait, tout en vous écoutant parler, je pense, nous, on a un crunch contre les Anglais, mais je pense qu'eux, ils ont 4 crunchs. Ils en ont un contre les Français, un contre les Irlandais, un contre les Gallois, un contre les Écossais, parce que de toute manière, pour les Italiens, ça ne compte pas, parce qu'il n'y a pas de rivalité spéciale, mais je pense que la rivalité avec les trois équipes britanniques est peut-être plus importante, plus féroce, que celle qui existe entre entre nous et les Anglais, parce qu'il y a, un certain respect. Alors, nous, ils nous prennent pour des arrogants. En même temps, les Irlandais, les Écossais, les Gallois les prennent également pour des arrogants. Donc, nous, la différence avec l'Angleterre, c'est que nous, on en a qu'un, ils en ont quatre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Ah, mais si, mais ils ont une position…
Personne ne peut les blairer. Personne ne peut les blairer, les Anglais. Non, mais… Et c'est pour ça que je me dis tout d'un coup que leur tournoi des destinations est plus important, en fait, est plus difficile à gagner. Ouais. Parce qu'ils ont quatre équipes qui veulent vraiment les concasser ou les battre parce qu'il y a une rivalité énorme. Je ne sais pas si vous en pensez.
Complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord. Et j'en parlais, j'étais avec Olivier Magne il y a deux jours au téléphone et il me disait que on parle beaucoup de l'arrogance anglaise, mais leur position dans le rugby européen est quand même très particulière parce qu'ils sont le meilleur ennemi, effectivement, de tout le monde.
De tout le monde, voilà.
De nous, mais peut-être plus encore des Écossais, des Irlandais et des Gallois. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'être anglais dans le rugby européen, dans le tournoi, c'est quand même…
C'est pas facile de gagner.
Oui, c'est pas le plus confortable. Tout le monde veut les taper tout le temps. Quoi.
Donc, exactement.
La différence, encore une fois, c'est que quand on voit dans chaque événement, là, on est sur un tournoi des Cinq Nations, mais regardez bien un peu l'historique qu'il y a aussi avec l'équipe de France. Regarde après 91, notamment ce match de Coupe du Monde où c'est une catastrophe. Rappelez-vous, Hugo se fait agresser. C'était dur. Hein,
quand même. Christian, le match l'année d'après en 92, c'est encore pire qu'une
catastrophe. Exactement, j'allais en venir. C'est pour ça, tu as anticipé. Bravo, Jean-Bas.
Parle de 91 déjà. Parle de 91 de ce match.
Non, mais 91, on se rappelle ce match contre l'Angleterre qui était, comme le disait Jean-Bas, les prémices de ce qui allait se passer en 92. Moi, comme je dis, c'est encore une fois, l'Angleterre joue l'Écosse, va jouer le Pays de Galles. C'est une rivalité, on le sait, anglo-saxonne. Mais encore une fois, nous, ça reste quand même quelque chose de particulier. Encore une fois, c'est sur, on le sait, sur des événements comme la Coupe du Monde, on est capable d'avoir une rivalité. Et ça va être, comme on disait, ça peut être par rapport à l'arrogance. Moi, je m'en rappelle, le premier truc qu'on s'est dit quand on a gagné contre eux pour la troisième place de la Coupe du Monde en 95, c'était de dire, c'était premier un truc, c'était de dire, on veut plus les entendre dire à la fin du match, sorry, good game. Voilà. Tu sais, cette partie, tu sais, arrogante qu'ils avaient et qui n'ont plus, heureusement, aujourd'hui, était de te serrer la main en fin de match et tu avais pris peut-être 20, 30 points et te regarder dans les yeux et te dire, allez, sorry, good game. C'est genre, tiens, c'est fait, c'est cadeau, c'est comme ça. Et pour revenir à ce que je disais sur 91, c'est que tu t'aperçois, 92, c'est pareil, c'est la même chose. Et tous ces matchs-là, parce qu'il y a quand même, quand tu parles de Brian Moore, Laurent, il faut le rappeler, c'était un talonneur qui avait quand même du tempérament, qui était un mec qui cherchait, on va dire, la merde sur tous les quatre coins des terrains, qui a pu faire dégoupiller tout le monde, tous les mecs. À l'inverse, pourtant, il y a eu dans cette équipe anglaise des mecs extraordinaires. Toi, Jean-Bart, tu en parleras. Tu peux parler de Carling. Moi, je peux parler
aussi. Moore, il rentrait son col dedans.
Ouais. Mais c'était.
Je sais pas pourquoi. À ton avis, pourquoi il rentrait son col?
Tu vois, alors c'était un côté un peu exacerbant qu'ils avaient, tu sais, ou un peu débordant, ce côté un peu, voilà. Mais il y a eu des sacrés personnages. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Jason Leonard lors de ses premiers matchs, et c'est vrai que c'est un mec extraordinaire. Tu vois, on pouvait se détester pendant 80 minutes, mais après être les meilleurs amis du monde. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu une difficulté quand même à passer un cap, tu sais, en disant, ouais, on va… Moi, je peux raconter une anecdote ou pas?
Ah oui, surtout.
Je vous raconte une anecdote. Rappelle-toi, Jean-Baptiste, ça te fait rigoler. Nous, tu sais, à l'époque, on n'avait pas encore Marcoussi, on était au Château Ricard. Ouais. Et je me souviens, à l'époque, les journalistes nous appelaient dans la semaine pour faire des interviews. Il n'y avait pas les conférences de presse comme aujourd'hui, donc c'était assez libre. Et en fait, les gars t'appelaient. Et je me rappelle, en fait, le match était donc un samedi en Angleterre, à Twickenham. Le gars qui s'occupait, tu sais, à l'époque, Jean-Bas, du bar au Château Ricard, allait décrocher au téléphone et dit, tiens, il y a un journaliste anglais, c'est pour Philippe Carbonneau. Et là, je lui dis, il n'y a pas de souci, t'inquiète, je vais le chercher. Et en fait, je fais le tour par la cuisine et c'est moi qui réponds directement au journaliste anglais. Et un journaliste anglais avec un très bon français me dit, voilà, Philippe, je voulais savoir comment tu penses, toi, le France-Angleterre, tout. Et là, je pars vraiment en sucette. Je dis, mais écoute-moi, tu ne vas pas me casser les couilles avec ton France-Angleterre. Écoute-moi, moi, je suis un pitbull. Tu as compris, moi, je vais arriver en Angleterre. Je monte en Angleterre, je vais mettre tout le monde à l'heure et tout. Écoute-moi, et pendant un quart d'heure, je raconte tout et n'importe quoi. Et on arrive, je te promets, on prend le shuttle, tu sais, pour arriver à la gare, en Angleterre. Et là, mon pauvre, on sort des panneaux partout de Philippe Carbonneau. I am the pitbull. Je suis un pitbull. Écoute-moi, c'est énorme parce qu'en plus, on gagne ce match.
Oui.
Gagne ce match. Et c'était en 97, exactement.
Et au Château Clairefontaine, tu te rappelles quand même que les ceux qui nous servaient au bar étaient en blouse blanche,
avec
des manches longues et tout, style la chasse, quoi, la chasse à court. Hein. Non, mais c'était quand même
c'était assez en préparation.
Pour aller plus loin, Christian, sur ce match de 97, c'est celui que tu avais choisi. En quoi il est spécial pour toi? Tu l'as joué déjà? Raconte-nous un peu le scénario, en quoi ça t'a marqué.
Il est spécial parce que c'est le début aussi d'une très belle génération. Il y a des joueurs qui arrivent et qui pointent leur bout de leur nez, comme Olivier Main, comme Fabien Pelouse, bien d'autres, une nouvelle génération qui va durer dans le temps, pas comme nous. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on commence ce championnat, ce tournoi des cinq nations à l'époque, on gagne contre l'Irlande. On gagne quand même 32-15, tu vois, donc ça c'est bien. On enchaîne après, derrière, toujours pareil, avec une victoire contre le Pays de Galles, qui était à l'époque une grosse, grosse équipe du Pays de Galles. Ça avait été un match aussi, là aussi, engagé et compliqué. Et puis, on fait ce troisième match contre l'Angleterre. Et là, c'est terrible parce qu'on arrive plein de confiance et tout. Et là, on découvre un truc quand même chauffé à blanc. Et c'est une catastrophe pour nous parce qu'on n'existe pas pendant, je pense, 60 minutes. On est vraiment hors course. On se fait balayer devant, derrière. On prend l'eau. Et puis, je sais pas ce qui se passe. Peut-être ils ont dû avoir un moment de flottement ou un moment de, je sais pas, le trou noir comme on dit. Et puis il se passe des trucs incroyablement. Il y avait Abdel Benalizi qui malheureusement se blesse et remplacé par Marc Dorougemont au poste de troisième ligne. On se retourne à des trucs comme ça. Et en fait, on prend le match à l'envers et on gagne. On gagne 23-20. Et là, c'est l'explosion de joie parce que tu te dis, on s'en sort bien. On aurait pu prendre 40 points ce jour-là et on gagne quand même à Twickenham. C'est beau. De gagner chez soi, c'est déjà important, mais gagner à Twickenham, ça reste quelque chose d'incroyable parce que ce stade, il est vraiment, tu vois, il est à part. C'est un match qui est rempli d'histoire. C'est un stade, pardon, qui est rempli d'histoire. Mais encore une fois, c'est gagner là-bas, tu as l'impression d'être un peu pseudo, hein, je vous dis ça, un peu champion du monde, quoi, tu vois.
Laurent, tu te rappelles de ce match aussi?
Ouais, très bien, très bien. Et c'est vrai que je crois qu'il y a 26 à 20 minutes de la fin, il me semble.
Ouais.
Et c'est vrai que ces 20 dernières minutes, elles sont complètement improbables. Je crois que c'est Laurent Le Flamand qui met un premier essai, qui est transformé par Titou Lamaison. Et je crois que c'est Lamaison qui marque ensuite le deuxième essai, qui transforme lui-même. Et puis derrière, il met une pénalité, je ne sais plus, à 2-3 minutes de la fin. Donc en un quart d'heure, c'est un 17-0 quand même. Ce qui n'a pas dû arriver très très souvent de coller 17-0 aux Anglais en un petit quart d'heure chez eux à Twickenham. C'est pas commun. Donc c'était un souvenir très très fort. Et puis c'était la première victoire française à Twickenham depuis 10 ans, depuis le match de 87, qui était le dernier grand chelem français, je pense d'ailleurs.
Avec une interception de
Philippe Sella, ouais, tout à fait. Donc c'était un match important et qui. Même s'il y avait eu la victoire en Coupe du Monde en 95 qui avait mis fin à la série, c'est vrai qu'aller gagner à Twickenham comme ça dans le tournoi, ça entérinait vraiment une sorte de rééquilibrage des forces entre les deux équipes, je pense. Et ça reste un très beau souvenir, Laurent, surtout que c'était inattendu. Quoi.
Laurent, si je peux vite reprendre tes propos sur Titou Lamaison, il faut se rappeler d'un truc incroyable. Comme je te dis, c'était une journée vraiment, vraiment différente et vraiment particulière. Il réussit le full house. Est-ce que tu sais, mon cher Jean-Baptiste, ce qu'est un full house?
Non, mais... Pénalité, drop, essai, transformation, c'est ça, non?
Ouais, exactement. C'est un essai, une transformation, un drop et une pénalité. Tu vois, c'est pas mal. Hein, il le réussit deux fois dans sa carrière, hein, Titou Lamaison.
Ouais, puis Twickenham, il était souvent pas mal, hein, parce que deux ans après, en Coupe du Monde contre les Blacks, il n'était pas le seul, mais il avait fait un bon petit match aussi.
Ouais. Et il réussit aussi, pareil, le full house.
Oui, tu as raison.
Il est plus le pull house que le full house.
Donc il l'a fait deux fois à Twickenham, quand même, c'est pas mal.
Ouais.
C'est pas mal. Non, c'était un très bon souvenir, ce match. Et c'est vrai qu'il y a eu des victoires en Angleterre ou au Parc, ou au Stade de France contre les Anglais, qu'on espérait, qu'on attendait, mais là, c'était quand même pas forcément évident, et surtout par rapport au scénario du match, quoi. C'était vraiment à un quart d'heure de la fin, je pense que c'était inimaginable. Une équipe de France qui est menée de 14 points à Twickenham par les Anglais à 15-20 minutes de la fin, en théorie, elle a perdu.
Jamba, tu veux réagir sur 97?
Non, 97, j'étais dans les tribunes, donc j'étais au paddock, retraité, donc oui, je me rappelle l'essai de Le Flamand. Voilà, c'est J'avais envie de rebondir sur ce qu'il voulait parler du Grand Chelem 77, que personne n'a joué ici.
Non, oui.
Et qui a nourri, enfin, moi j'avais 15 ans, 16 ans. Christian, 3-4 ans, ou un peu moins. Donc, mais
même quand.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Non, mais Christian, 15 joueurs,
ouais.
Il joue 4 matchs. Ça ne se fera plus jamais. Alors. Mais je ne sais pas si vous avez revu le match. Tu as dû le revoir.
Ouais, je l'ai pas revu là pour l'émission, mais je l'avais revu il y a quelques années.
Avec le public qui envahit le stade à la fin du match,
ouais.
Les commentaires, puis le buteur anglais qui manque pas mal de pénalités, je crois.
C'est, ouais, 6 pénalités, c'est incroyable. Donc, juste pour remettre le contexte, l'équipe de France va gagner ce match 4-3, parce que l'essai vaut 4 points.
Voilà, voilà.
Donc, c'est un tout petit score. Et effectivement, le buteur anglais va rater, je crois que c'est 6 pénalités, ce qui est quand même dingue. Donc, et en plus, pour la petite histoire, l'essai français qui est marqué par François Sangali, le Narbonnais, ouais. Le marque en plongeant et son vis-à-vis anglais qui veut aller le plaquer, qui se rate complètement, c'est le buteur anglais qui a raté 6 pénalités. Donc, c'était vraiment pas son joueur.
Ce qui est extraordinaire, c'est que 4-3.
Ouais, c'est ça qui est génial.
C'est des scores qu'on ne voit plus aujourd'hui.
On a fait un grand match.
Ah, ben, 4, c'est plus possible.
4-3.
C'est un match de foot.
Mais déjà, c'est le compte, enfin, plus que le match en lui-même, honnêtement, je sais pas si j'inviterais les gens à revoir le match en intégralité, mais d'abord pour moi, c'est une équipe mythique et qui m'a fait aimer le rugby a posteriori, parce que moi j'avais 2 ans, donc j'ai pas vu le match, mais je l'ai revu après en cassette, en VHS, quand j'avais, je sais pas, 8-9 ans, un truc comme ça, et c'est donc un match que j'avais pas vécu en direct, mais en le voyant, c'est un match qui m'a fait aimer le rugby quand même.
Laurent, c'est là où tu t'aperçois, parce que ce Grand Chelem, le jeu n'est pas exceptionnel, sauf peut-être un essai exceptionnel de Harris, je crois, au parc contre le Pays de Galles, avec une sautée de Jacques Faux à l'envers, un truc de fou. Mais ce qui est drôle, c'est que ça a gagné, quoi. Et quand ça gagne, c'est toujours un bon souvenir. Quand tu es enfant, ça te donne envie. Alors que le jeu a toujours été critiqué, je dirais même assassiné au cours de cette campagne 77, tu es d'accord avec moi.
Ouais, ouais. Je
rappelle quand même les journalistes, Jacques Fourroux, c'est un truc de fou. C'est jamais autant, une équipe a été autant critiquée dans sa manière de jouer. Romeu, Fourroux avec une passe de Maçon, les gros élans devant, je veux dire, un jeu dans l'hyper restrictif. Et pourtant, ça fait rêver des générations, enfin, pas des générations, mais une génération de jeunes joueurs dont je faisais partie. Ça n'a pas été. Le seul terreau de ma passion pour le rugby, parce que je préférerais parler de Bayonne des années 80, de Jean-Pierre Bastia qui marque en 73 en demi-finale contre Béziers. Mon père avait ouvert une bouteille de champagne après le match. Je pense à Bastia parce qu'il est parti il n'y a pas si longtemps. Mm-hmm. Mais ce Grand Chelem 77 avec Jean-Pierre, casque d'or, voilà, qui a été en plus après mon premier capitaine en 83, mais mon. La seule fois où j'étais capitaine, enfin où il était capitaine parce que j'étais blessé après, il a fait un discours fabuleux le soir. Parce que Jean-Pierre Yves était au niveau des discours, on peut parler des discours, j'en ai parlé l'autre jour lors de ma vidéo, mais c'est vrai que les Anglais ont toujours été meilleurs que nous au niveau des capitaines. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais ouais. Ils ont toujours été meilleurs que nous, je ne sais pas pourquoi. Ils faisaient ouais. Marrer les gens, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais après, pour revenir, si je peux, moi aussi, sur cette partie de 77, ce qui a marqué, c'est surtout l'histoire. L'histoire, c'était une histoire entre hommes, quoi. Tu vois,
ouais.
Ce que je disais, c'était 15 mecs qui commencent du début jusqu'à la fin. Et puis tu dis, ce match gagné contre l'Angleterre, bon, c'est vrai que le score, tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu gagnes une finale, on ne retient pas forcément le score, mais surtout la victoire.
Oui, en général, un grand match, c'est quand même 38-28.
C'est pas 4-3, quoi.
Mais tu sais, mais
4-3, quoi.
Ouais, il nous est arrivé, nous, avec le Stade Toulousain, de faire une finale aussi contre Bourgoin, 9-6. Ça n'a pas eu le monde de la fédération à ce niveau-là. Mais c'est, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand tu en parles, surtout avec les anciens, moi, j'ai eu la chance de faire une très belle interview avec Jean-Pierre Yves. Quand il t'en parle, il en a encore les larmes aux yeux parce qu'il te dit, personne ne croyait en nous, on était là, et puis. C'était une histoire d'homme. Une histoire d'homme, c'est ce qui a fait la beauté aussi de ce parcours-là. Quand tu disais tout à l'heure aussi, moi je me rappelle de cet essai de Bastia, c'est incroyable quand il prend, tu sais, ce ballon plein champ, plein badin, et il fait 40 mètres tout seul, c'est extraordinaire.
En Irlande.
Ouais. En Irlande, et c'est même le dernier match, et il gagne 15-6, c'est énorme. C'est énorme parce que
77, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est une des rares équipes dont on se rappelle à peu près pratiquement la composition.
C'est énorme.
Ouais, parce que.
On est d'accord. Palmier, ouais. Bernon, Paco, Cholet.
Par en board,
Rive, Strela, Bastia. C'est rare, quoi. C'est rare 40 ans après.
Ouais. Alors, ouais, et puis il y a des personnages qui sonnent comme des noms mythiques, moi, pour des gens de ma génération. C'est, voilà,
on parle de Le Boulois en 10, c'est à peu près 30 coups de pompe par match.
Non, pas une toute paille. Roumieux ou Aguirre ? Jean-Michel Aguirre ou Roumieux ?
C'est Romeu, je crois.
Romeu. Pas une touche manquée. Il recevait des pizzas de Jacques. La passe en lobe. Tu te rappelles la passe qui avait été critiquée, quoi. La passe lobée dans. Comme ça, en banane.
Il laisse le temps aux défenses de monter.
Non, non, mais c'est fou. Après, il y a Bertrand Sangali, c'est ça ? Bertrand Sangali.
Ouais, exactement.
Aguirre à l'arrière.
Ouais. Voilà,
c'est quand même une équipe exceptionnelle, quoi.
Et c'est la seule fois donc une équipe a gagné le tournoi avec les 15 mêmes joueurs, ce qui n'arrivera évidemment plus jamais. Hein. Aujourd'hui, ça n'arrivera plus. Et il y a il y a une anecdote qui est géniale à propos de ce tournoi. Alors, ce n'est pas le match en Angleterre, c'est le match en Irlande. Je crois que je suis quasiment sûr que c'est cette année-là, le match du Grand Chelem, que Fourou avait raconté, où ils avaient mis le chant des esclaves de Nabucco dans les vestiaires en se tenant comme ça. Et quand Fourou racontait ça, lui, il en avait 20 ans après, il en avait encore les larmes aux yeux. Et moi aussi, d'ailleurs, quand je l'écoutais. Donc, c'est waouh. C'est là qu'on arrivait quand même à percevoir ce qu'ils avaient pu vivre comme aventure.
Est-ce que c'est l'année, je pose une question, on dirait, est-ce que c'est l'année où Jacques se pète le nez pendant un des matchs, il a le nez ensanglanté, enfin, c'est pour témoigner de son esprit. Il va sortir et puis à un moment donné, je crois que c'est Patou qui lui dit, regarde, qu'est-ce qui va rentrer à ta place. Il regarde Astre dans les tribunes, non, je reste. Il a essayé avec le nez pété jusqu'à la fin du match. C'est peut-être pas un match du Grand Chelem, mais c'est Ça témoigne de cette envie de rester ensemble, les mecs, et de rien laisser aux autres. Je te rappelle de ce match.
Et un dernier mot sur le 77. Moi, si je l'ai choisi aussi, c'est parce qu'on a parlé tout à l'heure de la façon dont médiatiquement ça avait pris de l'ampleur, les France-Angleterre, à la fin des années 80, début des années 90. Mais ce match-là, de 77, il y a eu une campagne de presse hallucinante contre l'équipe de France. Ouais. C'était une époque où l'équipe de France n'avait pas forcément une super réputation en Angleterre. On était considérés comme des joueurs violents. Et voilà, les Palmiers, les Embernon, les Bastia, il y avait eu le fameux 7 dates Bastia en une de je ne sais plus quel journal, descendez ce Bastia. Enfin, même aujourd'hui, je ne pense pas qu'on imagine ça en une d'un quotidien anglais, le jour d'un Angleterre-France à Twickenham, descendait tel joueur. Donc, ça avait été très, très virulent. Ils avaient été surnommés la Horde Sauvage, les Français, cette année-là, par les Anglais. C'est aussi ça qui rend ce match dans son contexte et cette victoire particulière.
C'est une des premières années, peut-être sinon pas la première, où au lieu de rester pendant les hymnes à 10 mètres les uns des autres, Jacques Faux avait créé le rond, le cercle.
Ouais.
Je me rappelle. Parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, les mecs s'échauffaient et puis tout d'un coup, il y avait les hymnes, crac, tu t'es arrêté, donc il faut y avoir un coéquipier à 50 mètres, toi. Et les mecs restaient comme ça. Et je crois que c'est l'année où Jacques
crée
le cercle avec 1m55 au milieu des dinosaures, tu te rappelles, les mammouths. Après, il y a eu les grenoblois, mais c'était le début des packs des mammouths, les mammouths français.
Le deuxième grand chelem de l'équipe de France, après celui de 68, 77, il y en aurait eu d'autres évidemment derrière. J'ai l'impression quand même que les crunchs d'anthologie, il faut que ce soit lié à un grand chelem, par exemple. Pas forcément, ou un grand match de Coupe du Monde, mais gagner un crunch au milieu d'un tournoi raté, ça n'a pas la même saveur.
Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a... Un match, il peut marquer pour tout un tas de raisons par rapport à un contexte ou un déroulement. Le 55-35 de 2015, même si l'équipe de France était loin du niveau du top mondial à cette époque-là, à sa manière, c'est un match qui a marqué et plein d'autres, je pense.
Et le crunch de novembre, qui était un demi-crunch, comme tu veux, c'était pas le tournoi. C'était quand même un match exceptionnel.
Exactement. Je suis tout à fait d'accord.
Non, mais avec un suspense, un match nul à la mi-temps, un truc de fou. Ouais.
Non, mais complètement. Je pense que c'est un match qui va marquer. Même si ce n'était pas le tournoi, s'il n'y avait personne, c'était au mois de novembre, c'est improbable. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on s'en rappellera au-delà du match lui-même. Mais donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se souvenir d'un Angleterre-France ou d'un France-Angleterre.
Laurent, est-ce qu'on n'a pas le sentiment aussi que ces matchs France-Angleterre, ça te donne un peu aussi le baromètre par rapport à tes équipes? Tu vois ce que je veux dire? C'est en gros, tu arrives quand tu n'es pas bien, tu sais, quand ça fait 2-3 ans que tu te cherches un petit peu, tu vois, quand tu gagnes contre les Anglais, c'est le truc qui te booste aussi, qui te, entre guillemets, te met un peu plus de côté positif pour la suite, parce qu'il y a tellement, tu vois, il y a eu des périodes où, comme je te dis, on a été quand même assez conquérant et assez fort dans ces matchs-là, notamment pendant les phases de tournoi. Et après, tu as eu des moments de disette, tu vois ce que je veux dire. Et ces matchs-là, c'était ces matchs qui te permettent de te juger aussi sur, voilà, comment tu en étais. Tu vois, genre, tu pouvais perdre à la maison contre l'Écosse, mais si tu allais gagner à Twickenham, ça t'effaçait cette déconvenue, tu vois, c'est un peu le
truc. Oui, je pense que ça, vous le savez mieux que moi, mais dans la vie d'un groupe, je pense que aller gagner en Angleterre, battre les Anglais chez soi, ou je me souviens en 2004, notamment quand ils sont champions du monde, on les bat au Stade de France dans le tournoi suivant. Ouais, je pense que c'est des matchs qui comptent dans la vie d'un groupe quand même, ça.
Tu parlais tout à l'heure d'une incroyable remontée en 97. En 2005 aussi, il y a une belle remontée. Les Français qui gagnent d'un point avec Yashvili, la France qui gagne d'un point, ils sont menés 17-6 à Twickenham et ils finissent par gagner 17-18. Au retour des vestiaires, les Français ne concèdent plus un seul point. Yashvili qui marque 4 pénalités. Ça, c'est aussi un grand moment aussi, ça.
Ah oui, c'était un grand moment. Après, le drame, entre guillemets, de cette génération, c'est qu'elle a signé des victoires vraiment marquantes contre l'Angleterre. Malheureusement, il y a eu deux demi-finales de Coupe du Monde en 2003 et en 2007 qui, je pense, pèsent quand même très lourd sur le destin de cette génération-là. Surtout celle de 2007, parce que 2003, les Anglais étaient vraiment au sommet. Il y avait
rien. 2007, c'est le rebond
après les All Blacks.
Ouais, après la victoire à Cardiff contre les Blacks et l'essai avec le rebond devant Damien Traill dès là, je crois, au bout d'une minute, 1 minute 30 de jeu. Et moi, je me souviens très bien de ce match. On était en tribune et les Bleus vont assez vite prendre le score quand même. Et jusqu'à 10 minutes de la fin, on est devant. Mais je ne sais pas, c'est facile à dire après, mais on sentait tous quand même que ça n'allait pas bien se terminer cette histoire. Je me rappelle de Vincent Clerc qui se prend une cuillère, qui est à 2 mètres de marquer un essai. Et puis après, voilà, pénalité, drop de Wilco, et il met 9 points dans les 10 dernières minutes, Wilkinson, et c'est plié. Ce match-là, on ne saura jamais si les Français auraient battu les Bocs en finale, mais c'était plus que 2003, je pense que cette défaite-là, elle était vraiment douloureuse. Quoi. Puis jouer une finale de Coupe du Monde à domicile, bon.
On était tellement sur l'euphorie et le petit nuage de cette victoire face aux Blacks en quart de finale à Cardiff que finalement, on se sentait presque invincible et ça nous a remis un gros coup derrière la tête. Ça nous a fait vraiment retomber
très haut. Et puis les Anglais revenaient vraiment de loin. Franchement, ils avaient traversé 2 années très difficiles. On les avait battus 2 fois en match de préparation, à Marseille et je crois à Twickenham dans l'autre match. Et de toute façon, cette demi-finale France-Angleterre, c'était vraiment improbable, hein, parce que les Anglais battent quand même l'Australie, eux, en quart, il faut se souvenir. Donc, la victoire de l'Angleterre contre l'Australie et celle de la France contre les Blacks, c'était improbable. Mais je me souviens que l'équipe avait titré tellement français après la victoire à Cardiff contre la Nouvelle-Zélande. Et après, ils avaient titré tellement anglais après la victoire anglaise au Stade de France contre les Bleus. Et les deux étaient assez bien vus, je trouvais. Ouais, c'est sûrement une des.
Le fameux relâchement.
Ouais, je ne sais pas si c'est du relâchement. Je ne sais pas. Je pense que c'était.
Mais c'est important aussi de rappeler ces grandes défaites. Il n'y a pas de grandes ou de petites défaites, mais c'est vrai que tous les matchs qu'on a évoqués avant, c'est quand même souvent des victoires françaises. Là, c'est quand même deux matchs qui sont très marquants en Coupe du Monde. Et JB, quand on en parlait l'autre jour, tu parlais du fait que l'Angleterre savait perdre, la France savait un peu moins perdre. J'aimais bien.
Par rapport à ce que disait Christian tout à l'heure, moi, le Surrey Good Game. Moi, je pense que les Anglais, globalement, sont plus fair-play qu'on le croit. Christian a joué avec les Barbarians britanniques, je crois. Il a vu ce que c'était, même s'il n'y a pas que des Anglais et des joueurs qui viennent de tout horizon. Mais le sorry good game, je pense qu'il le faisait même lorsqu'il perdait. Peut-être qu'il ne disait pas sorry. Ça t'enlève le sorry quand tu perds. Quand tu gagnes, tu dis sorry, bien sûr. Mais à ce niveau-là, je ne suis pas aussi dur avec vous par rapport à... cette manière de serrer les mains à la fin du match. En plus, les Anglais, comme les Britanniques, en général, ils ne serrent jamais la main. Nous, on s'embrasse, eux, ils ne serrent pas la main. Mais voilà. Je voulais simplement rebondir sur le, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du quart de finale 91 que je jouais, qui a été pour moi, alors là, franchement, la plus grosse déception de ma carrière. La Coupe du Monde organisée en France, un quart de finale à Paris, et on ne pouvait pas rêver de mieux, quoi, en fait, Laurent. Quoi. Et effectivement, on tombe sur une équipe d'Angleterre qu'on sentait bouger depuis une année ou deux, depuis 89. Mais quand même, moi, je me rappelle toujours une mêlée où j'étais à côté de la mêlée, bien sûr, et je voyais les mottes de terre du troisième ligne français exploser, quoi. En face, il y avait Hackford-Doulet, c'est-à-dire deux tracteurs monstrueux, Skinner, Winterbottom et Tigg, je crois, Tigg. Ah, il y avait vraiment un gros paquet d'avant.
Ouais.
Pour moi, c'était la plus mauvaise soirée de ma vie, parce que Daniel Dubourcas s'était engueulé, je crois, avec l'arbitre. Il y a eu une embrouille à la fin du match.
Après le match, oui.
Et ça a été, voilà, on peut parler des grands. Je parle des croches, mais là, c'est un mauvais souvenir, mais c'est important de. Voilà, que je me libère un peu, que ça me fait moins mal de parler devant vous.
T'es en thérapie.
Non, mais ça a été catastrophique parce que. Mais en même temps, il y avait. Je soupçonne la fédération à l'époque d'avoir organisé une poule de quatre. Une poule de trois un peu trop facile avant ce quart de finale, puisqu'on avait le Canada, la Roumanie et les Fidji dans la poule. Donc, ça a été relativement facile. Et on est tombé tout d'un coup, on est passé d'un petit col de troisième catégorie du Tour de France à l'Everest tout d'un coup. Mmh. Et on était tellement content d'être en quart de finale. Enfin, je me rappelle toujours qu'on avait fait ce match contre le Canada. Et je me demande, quand j'en parle d'ailleurs de ce match contre le Canada… On a fait une telle soirée dans un bar qui s'appelle le Saint-Barth à Agen. Je ne sais pas si tu connais ce bar. Je pense que c'est là où on perd le quart de finale. Parce qu'on avait tellement envie de se défoncer. Parce qu'après, on s'est retrouvé lundi au samedi, deuxième lame, avec un téléphone. Il fallait des pièces de 1 franc à l'époque. Un téléphone, une télé, rien. Et on est resté une semaine à Clairefontaine. Donc, il y a eu d'abord la première soirée au Saint-Barth à Agen. C'était n'importe quoi. Et là, la semaine où vraiment on s'est fait chier. Et donc, on est passé d'une vie assez monacale, facile, tranquille, enfin, un petit train-train, la croisière pour se qualifier, à effectivement un choc où on ne s'attendait pas à une opposition aussi importante. Même si on peut gagner, même s'il y a cette dernière action où le ballon sort avec Serge, il y a un 2 contre 1 et l'arbitre siffle parce que Ondars, ce connard, il plonge dans l'engouement. Le ballon est sorti depuis 2 minutes, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je suis fou, mais c'est pas grave, le match se termine. Mais on peut encore gagner ce match, même si on ne le mérite pas. Voilà. Terminé, je ne parlerai plus de ce match. J'ai fait mon B.A.B.A. Voilà, vous êtes mes psychiatres. Je suis sur le divan, j'avais besoin de parler.
C'est beau, Jean-Baptiste. La France qui perd 19-10. Hein, si je...
ouais, 19-9. Ouais. Ouais, c'est 19-10. 19-10, mais c'est vrai que c'était très serré. Il marque, je crois, 2 pénalités dans les dernières minutes.
À la fin,
il y a longtemps eu 13-10, il me semble.
Ouais, mais cette dernière action, j'ai encore là. Par contre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que la première fois où la France a fait match nul à Twickenham,
en quelle année?
Celui qui me répond, je lui offre.
En quelle année?
6 bouteilles d'un bon pommerol.
Je connais l'année de la première victoire française à Twickenham, mais pas…
L'année du premier match nul, à défaut de la victoire, parce que la victoire, c'était
58.
Après.
Hein 51, la victoire.
58.
Le premier match nul à Twickenham.
58.
Non. Alors, je vais vous le dire. Janvier 1922, à l'aile droite, il y avait un certain monsieur qui s'appelait André Lafont, mon grand-père. Voilà. La première fois, il y a eu match nul à Twickenham. Et en face, il y avait un mec qui s'appelait Love, un peu comme le molosse irlandais qu'on a vu l'autre jour.
Ouais.
On se part tout, pour info. Ouais, Laurent, ouais, je connais mes stats.
C'est beau, ça. C'est beau. c'est beau. Et juste pour reparler du fameux Sorry Good Game, là,
Will Carling, lui, c'est toujours, alors je ne sais pas s'il était sincère ou pas, mais défendu, effectivement, de tout. Lui, pour lui, il disait que c'était une marque de respect quand il disait ça.
Je te dis.
Et lui et Brian Moore ont tous les deux dit que ce qu'ils ne disaient pas à l'époque, c'est qu'ils avaient une trouille bleue de jouer l'équipe de France. Ils avaient vraiment peur. Il y avait beaucoup de respect de leur côté et même de la peur. Et Carling expliquait qu'il avait presque un complexe d'infériorité par rapport aux lignes arrières françaises. Parce qu'eux, ils avaient été un peu traumatisés, les Anglais, parce qu'ils avaient vécu dans les années 80 où ils étaient au fond du seau, alors que l'équipe de France, voilà, avec Blanco, avec Sella, avec JB, avec Lagisquet, avec Menel et compagnie, avait été vraiment une référence à ce niveau-là. Donc pour un trois quarts centre en plus comme Will Carling, quand il arrive en équipe d'Angleterre, c'était...
Oui, mais il a quand même Gus Scott à ses côtés. Oui. Il a Andrews. C'est pas que taper des chandelles, il a une Norwood.
Ah non, mais eux, ils avaient une super génération. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il arrive, ils n'étaient pas vraiment des références à son poste non. Et dans les lignes arrière, les Anglais. Et la crainte qu'il avait et l'admiration qu'il avait pour le jeu français, elle était née de ce que lui, il avait vu en grandissant, en arrivant dans le rugby dans les années 80.
Voilà. Une question, parce qu'on était au stade des confidences, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on s'est fait un peu mouffer, on s'est brillé en disant oui, nous les crunchs, on les a gagnés, un truc
comme ça. Non, on parle des défaites aussi. Moi,
mais justement, c'est bien parce que tu nous as fait une belle confidence. Moi, ouais, je vais en parler aussi. Moi, je me rappelle, Laurent, ça va te rappeler peut-être un truc aussi, l'ouverture du Stade de France pour le tournoi des Cinq Nations. Tu t'en souviens contre qui c'était ou pas?
L'ouverture du Stade de France?
Ouais, le premier match.
France-Espagne
90, en rugby, 98 donc c'est.
Non, et après pour le rugby
ben c'est en 98 dans le premier match du tournoi.
Tu te rappelles le premier match contre qui c'était?
Non.
L'Angleterre.
Mais c'était pas une défaite, si.
Ouais, exactement. Et ce qui s'est passé est catastrophique. Si on doit raconter tous les petits.
Raconte-nous.
Allez, je vous raconte. En fait, on avait tellement préparé ce match en disant voilà, on veut faire, c'était notre premier match du tournoi pour le Stade de France. Et on s'était promis plein de trucs toute la semaine en disant on va les décapsuler, on va les passer à la machine à laver, on va les salader, comme disaient certains joueurs. Et en fait, je me rappelle, comme à l'époque, tu sais, ce long couloir qui a mené, tu sais, au couloir central pour pouvoir rentrer sur le terrain. Et là, je me rappelle, en fait, les deux équipes, on se retrouve côte à côte. Et j'ai honte aujourd'hui de raconter tout ce qui s'est passé parce que c'est presque, on aurait dit des animaux, quoi. Tu vois, tu te dis, les Anglais, mais ils avaient une telle distance par rapport à nous. Oui. Et je m'en souviens, tout ce qui s'était passé juste en avant-match, quoi. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'ils nous l'ont fait payer juste après parce qu'ils ont gagné ce match-là. Et on perd contre les Anglais. Mais ça avait été d'une violence verbale, physique, juste avant le match. Mais incroyable, incroyable.
Pourquoi verbale alors?
Parce qu'on était tombé dans le truc où on a voulu. Je pense qu'on avait dépassé un peu le stade de l'entendement en disant voilà, une préparation de match. Tu peux avoir un regard, tu sais comment ça se joue, genre bah, un regard, un truc comme ça.
Là, mais ça, c'est devant. Et qu'est-ce que tu lui as dit alors?
Ben, en fait, j'ai pas trop parlé. Je pense que.
Non, mais dis-le, lâche-toi là.
Comme on est sur une séance de psychanalyste, et en fait, je me rappelle, il y avait ce talonneur, je me rappelle plus de son nom, je suis désolé, qui en fait va pour rentrer sur le stade, va rentrer sur le terrain, commence à accélérer, et je lui fais un vieux croque en jambe, mais dégueulasse pourri. Et il va s'éclater contre le côté du mur, tu vois, et c'était presque honteux de faire ça, tu vois, à ton niveau, tu peux pas, t'as pas le droit. Mais on était vraiment, tu sais, dans une préparation psychologique où on a dépassé les frontières. Et je me rappelle, ça avait été, parce qu'on parle de devant, mais derrière, en 98, il y avait aussi des clients. Et je peux te dire, les mecs, voilà. Et ce qui m'a plu chez eux, parce qu'on peut leur reconnaître certains défauts, mais aussi des qualités. Je pense qu'ils avaient emmagasiné vraiment de la colère. Quoi. C'est-à-dire, OK, vous ne nous avez pas respecté, on va vous faire passer quand même un joli moment. Et franchement, c'était bien rattrapé sur le terrain. Mais voilà, c'était un peu comme le disait Jean-Bas, ils gardent un peu des séquelles et des hématomes de 91. Moi, je ne garde pas non plus un souvenir flamboyant de cette préparation, surtout dans ce couloir. Et ce qui a provoqué par la suite tous les autres matchs que j'ai eu la chance de jouer au Stade de France. J'ai jamais retenté, tu vois, le croc en jambe ou le coup derrière la tête. J'ai pas osé, quoi. Tu vois, j'étais plus dans cette partie-là, quoi. Et je m'en excuse, c'est pas bon.
Le match n'avait pas commencé.
Ce qui se passe dans ce podcast.
C'est passé. Il y a prescription maintenant.
Le match n'avait pas commencé.
Ouais.
C'est pas pire ce qu'a fait Gérard Bertrand avec Narbonne. Un jour, il reçoit Mont-de-Marsan. En huitième de finale retour, ils avaient perdu 9-3 à Mont-de-Marsan. Match retour à Narbonne. Il y a un mec qui a éteint la lumière dans le tunnel. Et ils sont tous fait défoncer. Non, mais il m'a raconté, Gérard, tu vois qui est à Narbonne à l'époque de Colomines, toi, Et ils ont pris 60-3 à Mont-de-Marsan. Ils sont rentrés avec des bleus sur la gueule. Ils sont battus dans le vestiaire avant le match. Donc, un petit croc en jambe, franchement, Christian.
Gentil, ouais, pardonné.
Mais c'était bon. Ce style dégueulasse, Jean-Bas, ce style dégueulasse du croc en jambe où le mec, il essaie de se rattraper, tu sais, il fait 3-4 mètres, et il va s'éclater contre les bâches du côté, mais c'était.
Mais après, il y avait un contact, vous êtes frotté.
Il s'est passé un peu des trucs, il s'est approché, et puis, comme tu sais, quand tu t'approches, quand tu mets deux pièces avec la même intensité, tu sais, le courant électromagnétique, il passe pas, quoi, tu vois.
Parce que moi, c'était avec qui? C'était qui?
Non, mais.
Ce talonneur, si je ne dis pas de bêtises, c'est un talonneur qui joue au Wats.
Il avait les oreilles comme ça, un grand short, les chaussettes basses.
Non, mais qui était en plus un des.
Et tu vois,
le premier talonneur où il y avait pas, tu sais, il avait le physique un peu de troisième ligne. Et
Adrien,
oui.
Toi, ce qui est fabuleux avec Christian, c'est mon nom totalement opposé à moi. Moi, je jouais arrière. Mon arrière, il était à peu près à 60 mètres en face de moi, donc je ne pouvais pas lui parler, je ne pouvais pas le toucher, rien du tout. Lui, quand tu es pilier, c'est ça qui est fait. C'est que tu ne te parles peut-être pas, tu te chambres sûrement, parce que c'est très à la mode, il paraît. Et tu te touches, tu te frottes, tu sens les arcades. Enfin, c'est un truc de fou de jouer pilier. Je pense à ça tout d'un coup, parce que moi, mon arrière, c'est pour ça que les piliers qui ne sont pas trop des causants, qui sont souvent des taiseux, il y a une telle complicité. Alors, toi, il parle de son talonneur. Si ça se trouve, à la fin du match, ils ont bu un canon et tout. Moi, les arrières, c'est différent. Ils sont là. Oh non, c'est génial comme truc. Quoi. C'est génial d'être pillé. Moi, quelque part, je t'envie, Christian, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je comprends les amitiés taiseuses, toi, silencieuses, des pillés qui se retrouvent souvent lors des après-matchs de ma génération. À la limite, je ne me retrouve pas autant. J'ai pas autant de complicité avec les arrières contre qui j'ai joué. Voilà, petite parenthèse fermée, rien à voir avec les.
mais le gros problème de Jean-Bas, on le sait, toute sa carrière.
C'est Christian, écoute, tu retrouveras ton ami et vous irez boire un verre ensemble.
Jean-Bas, le problème. T'as envie de dire que j'adore les gros, hein.
Non, mais tu sais quoi, Jean-Bas fait partie d'une caste de trois quarts où ils n'étaient pas nombreux. Peut-être si on doit les compter sur, on peut les compter sur. Sur le doigt d'une main, c'était ces mecs-là qui aimaient plus traîner avec les gros qu'avec sa race, tu vois, de trois quarts. Il aimait tout le temps, tu sais, c'était le trois quarts qui venait un peu casser les bonbons, te préparer avant un match, tu sais, et venir, tu sais, rentrer dans ce milieu très fermé des premières lignes.
Il rêvait d'être pilier, quoi.
Non, pas d'être pilier, mais j'avais besoin de. Voilà, je me sentais en sécurité le soir, quoi. Puis, de temps en temps, il fallait leur donner un petit sucuc, les faire croquer, leur présenter une nana. Leur offrir 2-3 bières, toi. J'aime cette amitié virile entre les hommes, toi. Cette promiscuité. Voilà, plus qu'avec des demi-mêlés coquins, malins, fourbes, tordus, des ailiers qui pensent qu'à leur gueule, égoïstes, toi. Des centres bourrins. Voilà, c'est comme ça, c'est totalement personnel. Ça n'a rien à voir avec le crunch. Sorry.
Sorry, good game. Bon, messieurs, allez. Christian, tu essaieras de retrouver ton homologue pour t'excuser puis lui offrir un petit verre. Ça permet
de. Écoute, c'est des belles histoires de crunch. Déjà, m'excuser, ça serait pas mal, même si je n'ai pas eu trop l'occasion de le faire. Mais comme je dis, c'est que ces matchs-là te conditionnent et te préparent, tu sais, notamment toute la semaine. Mm-hmm. Autant, comme je dis, ce n'est pas manquer de respect au Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, voire l'Italie. Ces matchs-là, tu sais que ils ont tellement de l'importance, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Et comme je le disais, c'est la génération Jean-Bas, ça peut être la génération de Jean-Pierre-Yves. Tu n'avais pas le droit de fauter, quoi, tu vois. Tu n'avais pas le droit de te toller face aux Anglais. Et puis, c'est une préparation qui commençait déjà par la presse interposée. C'est autant la presse anglaise, on la connaît, hein, qui maîtrise parfaitement son sujet, qui pouvait te faire dégoupiller dans la semaine. Et puis après, derrière, c'était tout ce qu'on attendait de toi. Et ce match-là avait une telle importance parce que quand tu parles aujourd'hui avec un joueur, ou même toutes les, si tu dis aujourd'hui les deux plus grosses équipes contre qui tu as aimé ou tu préférais jouer, il va te dire automatiquement les Blacks ou les Anglais. Tu vois, c'est vrai que les Sudaf restent à part, les Australiens aussi, mais c'est ces deux équipes, ces deux nations qui ont vraiment une grosse importance pour toi. Maintenant, comme je dis, c'est que ce match-là, il représente tellement de choses. Après, je veux dire, aujourd'hui, que tu le joues autant au Stade de France. Moi, j'aimais bien aussi le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'était à part. C'était un petit vestiaire.
Tu as connu les deux. Ouais,
on dira, tu as connu
les deux.
Ouais, et j'aimais bien moi le Parc des Princes parce que c'était un stade qui avait lui aussi été rempli d'histoire et tu sentais qu'il y avait presque encore, tu sais, le sang collé sur la porte des vestiaires en disant mais ces monstres-là du rugby français sont passés, la préparation qu'ils ont dû y mettre pour préparer ces matchs-là et puis la beauté parce que ça reste toujours des matchs comme on dit là, on reste sur le côté un peu, je parle pour nous devant le côté engagé, mais ça reste des matchs de haute intensité, c'est des matchs où ça joue, tu vois, rappelez-vous, moi j'aime bien quand Jean-Bas a parlé de son époque. Quand tu voyais ces trois quarts français qui faisaient des embolées, qui ne s'arrêtaient plus, c'était fabuleux.
En s'échauffant autour de la table de massage, je précise.
Hein?
En s'échauffant autour de la table de massage.
Exactement, qui prenait les trois quarts de…
À peu près 60 tours. Pas un claquage, tu te demandes comment. Donc, la première fois où tu accélérais, c'est quand tu rentrais sur le terrain. Donc, non, mais quand, au niveau des fibres musculaires, quand même, on était solide quand même. Parce que, non, réellement, c'est un truc de fou. Quoi. C'est-à-dire que tu arrivais, tu sortais en costard, il n'y avait personne, deux, trois mecs qui gueulaient au fond des tribunes, la tribune Auteuil. Une heure et demie plus tard, tu sortais, tu n'avais pas couru plus de 3 mètres. Quoi, hein. Il fallait aller à fond. Non, mais c'est un truc de barre. Par contre, je voulais juste, j'ai beaucoup apprécié le coming out. Par rapport au croque dans la chambre, au croque en job de Christian, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'ai l'impression que ça t'a soulagé. Ne t'inquiète pas, on t'en veut pas.
C'est pas de mal.
Mais pour finir, c'est encore, quoi, parce que là, on parle du côté français, mais pareil, Twickenham, ça reste un stade fabuleux, extraordinaire. Tu sais, c'est toujours pareil quand tu finis ces matchs, quand tu le finis sur une défaite, tu as moins envie de, tu vois, la bière, elle a du mal à passer.
Par contre, et la baignoire, Christian.
Exactement, j'allais en venir. Cette baignoire qui, en fait, il faut le savoir,
Quatre baignoires pour 20 mecs, t'imagines la guerre ou pas?
Est-ce que, je me souviens, et on le faisait uniquement en cas de victoire, autant te dire, c'était très rare. Oui. Il nous est arrivé d'être à deux ou trois dans la baignoire, quoi. Tu vois,
non, mais ce qui est hallucinant, s'il faut dire cette baignoire, c'est qu'il y a ça d'eau chaude, mais elle est plus que chaude, c'est de la lave en fusion. Donc il y a un gros savon. C'est le Marseillais. Donc au début, la première fois, je me suis fait baiser. Je suis rentrant, j'ai mis le pied dedans, je l'ai sorti, je te jure, j'étais brûlé au deuxième degré. Mais tu peux t'imaginer la température de la flotte. Alors après, dans des vieux robinets, toi, à l'ancienne, tu fais couler l'eau froide, et c'est des moments exceptionnels, ça, des moments exceptionnels. Mais effectivement, 3-4 dans une baignoire à Twickenham, ça aurait nécessité quelques jolies photos, c'est ça. Hein.
C'est vrai, en crampons, short, chaussettes.
Bon, messieurs, c'est super. Allez,
c'est bon.
On fera des podcasts sur les anecdotes du rugby. Je pense qu'il y a des centaines à raconter. Voilà. On pourra faire un podcast aussi en thérapie. Pour vous nous racontiez, vous arriviez à sortir tout ce qui… Voilà.
Non, mais moi, je me sens mieux maintenant.
Bon, bah, tant mieux. Merci en tout cas de votre participation. Je vous rappelle, ce podcast est à retrouver sur les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes directement sur votre smartphone. Messieurs, à très vite. Et encore merci pour votre participation. Salut.
Salut.